Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balade. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qui l'engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres? Et nous l'avons guidé aux deux voies.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 17 Tir 1401 du calendrier iranien, 9 juillet 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le Hajj 2022, les pèlerins iraniens dénoncent les accords de normalisation avec le régime criminel d'Israël. Les musulmans de nombreux pays du monde commémorent l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. L'exercice naval sécurité durable de la marine iranienne en mer Caspienne et le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est dans l'impasse sur l'autorisation d'aide transfrontalière à la Syrie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Les fidèles musulmans en pèlerinage à la Mecque ont entamé samedi le rituel de lapidation de Satan au premier jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice marquant la fin du Hajj, cette année le plus important depuis la pandémie de Covid-19. La lapidation de Satan est la dernière étape du grand pèlerinage qui a rassemblé cette année près d'un million de musulmans après 2 ans de restrictions drastiques en raison du Covid-19. Le Hajj, qui consiste en une série de rites accomplis pendant 5 jours à la Mecque et ses environs, fait partie des 5 piliers de l'islam devant être entrepris par tout musulman valide qui en a les moyens. Les musulmans de nombreux pays du monde célèbrent l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice qui marque la fin du pèlerinage annuel du Hajj. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. L'exercice naval de la marine de la République islamique d'Iran s'est poursuivi pour la 2e journée dans les eaux de la mer Caspienne en envoyant un message de paix et d'amitié. L'amiral Hamza Ali Gravani, commandant adjoint de la marine de la République islamique d'Iran, a déclaré que ces exercices sont organisés chaque année par la marine avant d'ajouter. L'exercice naval de sécurité durable se déroule depuis vendredi sur 3 niveaux, l'eau, la terre et l'air, avec la participation de diverses unités de la marine de l'armée, notamment des lanceurs de missiles, des hélicoptères, des drones basés en mer et des systèmes de guerre électroniques. Le but de cet exercice est de mesurer les performances des systèmes, d'évaluer les forces et de transférer l'expérience de l'ancienne génération vers la nouvelle, a-t-il indiqué. Le commandant adjoint de la marine iranienne a considéré la mer Caspienne comme une mer de paix et d'amitié entre les pays voisins et a ajouté « Nous ne permettrons à personne de perturber l'ordre et la sécurité de cette mer ». L'aide humanitaire transfrontalière à Idlib en Syrie est dans l'impasse après que la Russie et les pays occidentaux ont rejeté leurs résolutions respectives au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La Russie a mis son veto vendredi au Conseil de sécurité à un projet de résolution de la Norvège et de l'Irlande prolongeant d'un an l'autorisation d'aide humanitaire transfrontalière à la Syrie sans l'aval de Damas, Moscou n'acceptant qu'une extension de 6 mois. L'autorisation transfrontalière expire dimanche, laissant encore du temps aux 15 membres du Conseil de sécurité pour un accord. Favorable à une prolongation d'un an de l'autorisation, les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité devraient proposer une extension de 9 mois pour sortir du bras de fer opposant notamment Moscou aux Occidentaux. Les expéditions étaient effectuées depuis la Turquie vers la province d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie depuis 2014. La province est partiellement détenue par les groupes anti-Damas. La Russie affirme que toute aide alors apportée nécessiterait l'autorisation de Damas. Le Japon était sous le choc samedi au lendemain de l'assassinat par balle pendant un meeting électoral à Nara, dans l'ouest du pays, de son ancien premier ministre Shinzo Abe, dont le corps a été rapatrié à son domicile à Tokyo. L'assassinat de l'un des hommes politiques les plus connus de l'archipel, qu'il a gouverné pendant plus de 8 ans, a profondément meurtri et ému au Japon comme à l'étranger. Des milliers de personnes font la queue dans la ville japonaise de Nara pour déposer des fleurs près de l'endroit où l'ancien premier ministre Shinzo Abe a été assassiné par un tireur qui a ouvert le feu à bout portant alors que l'homme politique extrêmement influent prononçait un discours de campagne. L'auteur présumé de l'attaque, arrêté sur les lieux, a avoué avoir délibérément visé Shinzo Abe, expliquant à la police en vouloir à une organisation à laquelle il croyait que celui-ci était affilié. Certains médias japonais ont évoqué un groupe religieux. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, dont des lance-roquettes et des obus de précision qui vont améliorer les capacités ukrainiennes de viser des dépôts d'armes et la chaîne d'approvisionnement de l'armée russe. Cette aide, d'un montant de 400 millions de dollars, comprend 4 systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS et des munitions, a précisé un haut responsable du Pentagone. Avec ces HIMARS, l'Ukraine a réussi à toucher des cibles russes plus en retraite de la ligne de front et à perturber les opérations d'artillerie russe, a expliqué ce responsable. L'armée ukrainienne disposera au total de 12 HIMARS. Le lot d'aide inclut également un millier d'obus de 155 mm pour des pièces d'artillerie fournies par les alliés occidentaux de Kiev. Ces obus sont plus efficaces car ils sont plus précis et ont un rayon d'action plus important que ceux fournis jusqu'ici, a précisé le responsable du Pentagone. Il n'a pas confirmé si ces munitions étaient des obus téléguidés qui peuvent parcourir plus de 40 km avant de toucher leur cible avec précision, de fabrication américaine et déjà livrée par le Canada à l'Ukraine. Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ont annoncé des milliards de dollars de livraison d'armes à l'Ukraine depuis le début de la guerre, le 24 février. La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l'Occident contre la fourniture d'armes à l'Ukraine. Il prévient que les livraisons d'armes constituent une guerre par procuration des États-Unis et de leurs alliés contre Moscou et risquent de faire perdurer la crise. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Une foule de pèlerins iraniens s'est rassemblée sous la tente centrale des Iraniens au mont Arafat, près de la Mecque, pour exprimer leur soutien indéfectible à la Palestine, rappelant aux musulmans les aspects politiques du pèlerinage du Hajj. Connu sous le nom de rituel politique et religieux, de désaveu des mécréants, la cérémonie est organisé chaque année par l'Iran le 9e jour du mois de Zulhajja. La libération de Rots, la première qibla des musulmans, demande du régime tueur d'enfants d'Israël, est la cause immuable et la priorité du monde musulman. C'est ce qui a été déclaré dans une partie de la déclaration qui a été publiée et lue à la fin de la cérémonie de vendredi. Exprimant un ferme soutien à la nation résistante de la Palestine, la déclaration a condamné toute forme de normalisation avec le régime criminel d'Israël. Les pèlerins du Hajj ont mis en garde contre la distorsion des concepts islamiques, l'établissement de groupes extrémistes qui se présentent faussement comme musulmans et l'intervention et l'occupation des pays islamiques par des puissances arrogantes qui visent à éliminer les effets culturels et spirituels profonds de l'islam. Ailleurs, dans leur déclaration, les pèlerins iraniens ont reproché aux États-Unis et au régime israélien d'essayer de semer la discorde parmi les musulmans, soulignant la nécessité de l'unité islamique en adhérant aux enseignements du Saint-Coran et aux aspirations du prophète de l'islam. Enracinée dans les versets coraniques, la cérémonie est organisée chaque année par le bureau de la délégation du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, à la Mecque. Le Hoja de l'islam, Abdel Fattah Nawab, qui est le représentant du leader de la révolution islamique pour les questions du Hajj, et le président de l'organisation iranienne du Hajj et du pèlerinage, Sayed Sadr Hosseini, étaient parmi les hauts responsables iraniens présents à l'événement. Dans un discours prononcé en juillet 2018, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a noté que le vrai Hajj devrait inclure cette cérémonie. Le vrai Hajj devrait inclure le désaveu des mécréants et ouvrir la voie à une unité renforcée entre les musulmans, a-t-il déclaré lors d'une réunion avec des responsables iraniens du Hajj. Plus de 39 000 pèlerins iraniens ont participé au Hajj de cette année, qui est le plus grand après la pandémie, avec 1 million de pèlerins.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. En effet, le CENTCOM et le Pentagone se sont de plus en plus préoccupés par le rapprochement sans précédent entre l'Iran, la Syrie et la Russie. Une attaque dans la nuit de 4 à 5 juillet a frappé Al Omar, la base illégale américaine à Deir ez-Zor, une attaque qui a suivi une première attaque dans la nuit de 3 juillet. Mais ces attaques interviennent après les raids illégaux de l'entité sioniste, des raids avec des missiles hypersoniques contre Tartous. En effet, plus d'un analyste voit dans ces attaques une tendance d'hypersonisation des raids aériens de l'entité sioniste contre la Syrie, dont les missiles de croisière sont inefficaces face à la DCA syrienne imperméable. De son côté, la Russie a vivement condamné ces attaques, les qualifiant d'impardonnables et d'inadmissibles. Damas, qui a été l'hôte du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a de son côté annoncé son souhait d'ouvrir des ambassades à Donetsk et à Louhansk face à l'envoi des terroristes à la solde des Turcs et des Américains en Ukraine. Mais ce rapprochement reste-t-il là ? Bien sûr que non, et c'est l'entité sioniste et l'axe américain qui se sent de plus en plus en panique et préoccupé par ce rapprochement. On en débat avec nos deux invités d'honneur, Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne, qui nous rejoint depuis Damas, et Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour, Madame Midani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, qui êtes à Damas et qui suivez de près les évolutions, comment interprétez-vous les dernières évolutions en Syrie, les attaques illégales d'Israël et du régime sioniste contre les régions syriennes, mais aussi la riposte syrienne et de l'axe de la résistance?
Écoutez, je vous salue, je vous remercie de votre invitation. Je salue votre invité et je vous souhaite une excellente fête de Eid al-Adha à tous. Donc et je suis ravie d'être à Damas et d'être aussi avec vous.
Bonne fête à vous aussi, Madame Midani.
Merci, merci. Alors pour commencer. Deuxièmement, en Syrie, les choses se passent de manière, je peux dire, très difficile, en fait, très difficile au niveau du quotidien des personnes et au niveau des quotidiens de tout le monde. Les agressions israéliennes se multiplient et effectivement, en fait, la riposte de l'État syrien ou de l'armée syrienne se fait sur le moment pour en interceptant un certain nombre de missiles, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des dégâts aussi et que tous ces dégâts ils s'accumulent et que ça augmente la difficulté du peuple syrien. Ça c'est aussi un deuxième point. Le troisième point en fait dont je voulais vous parler, c'est aussi cette visite intéressante et importante de Monsieur Amir Abdollahian aussi en Syrie, après sa visite en Turquie, parce qu'en fait l'idée de cette visite, c'était du côté que nous avons pu déceler dans le discours de Monsieur Abdollahian. Que l'idée, c'est de faire effectivement une sorte de médiation pour que tous les pays de la région puissent vivre en paix correctement, dans le respect des règles internationales, et puis surtout en coopérant pour de meilleures conditions de stabilité, de coopération et de sécurité. Or, il est parti sur ce thème-là pour rencontrer les Turcs et après il est venu en Syrie. Malheureusement, la Turquie a commencé dès le lendemain de son départ aussi une agression nouvelle contre la Syrie. Ils ont bombardé des villages entiers syriens aux alentours des frontières turques, hein, des quantités de de populations civiles et de familles civiles sont prêtes aussi à s'exiler, à partir, fuyant les bombardements systématiques des Turcs, alors que, en fait, ce qu'ils ont exprimé, ce que les Turcs ont exprimé à Monsieur Abdullahian, c'est que bon, bah, ils ont exprimé leur crainte du fait que Qassad FDS puisse être à leurs frontières. Eux, ils pensent que FDS c'est le PKK et ils ne
Oui.
voudraient pas que le PKK soit à leurs frontières. Or, en fait, la meilleure et la seule garantie pour cela, c'est le déploiement de l'armée syrienne. Or, sur les frontières syro-turques et dans tout le respect de la charte internationale et de la souveraineté de la Syrie et de la Turquie, or, on voit que immédiatement la Turquie viole la souveraineté non seulement de la Syrie, mais de l'Irak à côté. Ils ont commencé à bombarder les deux pays. Et en fait, on pense que Erdogan essaye surtout de se faire valoir pour avoir comment dire, pour avoir des choses en contrepartie. Et ça, c'est vraiment, ça ressemble à toute la politique turque depuis 12 ans, en fait, qui est agression sur agression. Ils signent des traités. Je voudrais rappeler aussi que la Turquie est partie intégrante de la formule d'Astana, en fait, des rencontres
Oui.
d'Astana, et que la Turquie a signé et acquiescé un certain nombre comment dire, un certain nombre de solutions, de décisions qu'elle n'a jamais appliquées, et que à chaque fois ils signent et ils font le contraire le lendemain. La
Oui.
principale décision qu'ils avaient signée et qui a été en fait l'aspect principal de ces décisions, c'est l'unité du territoire syrien,
Bien
c'est
sûr.
contre tout séparatisme, c'est le respect du territoire syrien, de la souveraineté de l'État syrien, le retour de l'ensemble des territoires syriens au contrôle de l'armée syrienne, donc que les Turcs, l'occupant turc quitte, hein,
Oui.
et surtout d'arrêter de soutenir aussi les factions terroristes qui sont presque au nombre de 70 maintenant, les factions terroristes que la Turquie anime, soutient, forme, dirige, etc., aussi bien à Idlib que dans le sud, dans le nord-est, Hasakeh et Qamishli et puis Tel Rifat, etc.,
Oui.
sur toutes les frontières de la Syrie. Or, on voit la Turquie continue à les équiper, continue à leur donner des armes, des munitions, à leur faire aussi de la propagande, à leur prêter des médias qui ont une portée internationale, etc.
Oui.
Tout ça disant que c'est soi-disant l'opposition syrienne ou la démocratie syrienne qui veut voir venir au pouvoir.
Bien sûr.
Alors, toutes ces ingérences sont absolument pas tolérables. Et elles ne sont ni tolérées ni tolérables par l'État syrien, d'une part, et puis que d'autre part aussi, l'Iran comprend parfaitement que cette position de l'État syrien. L'Iran se propose aussi d'être, je dirais, un peu le messager pour qu'il y ait une bonne entente entre tous les pays de la région. Mais en dehors de toute influence étrangère, en dehors de toute violence et surtout pour une sécurité commune de l'ensemble de la région, avec tous
Merci.
les pays de la région, mais sans aucune intervention étrangère. Ce qui est le cas aujourd'hui aussi, les Turcs sont soutenus par les Américains et par l'OTAN.
Oui. Merci pour vos explications, Madame Idani. Restez avec nous. Nous avons également Luc Michel, géopoliticien avec nous, qui nous rejoint depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour à vous. Alors, Quel regard portez-vous sur les évolutions en Syrie, vu le rapprochement sans précédent entre l'Iran et la Syrie d'un côté, le renforcement des forces militaires russes dans le nord-est de la Syrie, mais également l'affaiblissement du front et de l'axe US-Israël en Ukraine d'un autre côté? Comment pourrait-on interpréter cette situation, Monsieur Michel?
Tout d'abord, bonjour à vous et à votre équipe. Et bonjour, Madame Midani. Je salue à travers elle Damas, qui est une ville dans laquelle j'ai gardé beaucoup d'excellents souvenirs de l'émission en 2013-2014. On constate en Syrie, comme en Afrique, au Mali, ou surtout en Ukraine, que le principe de réalité démonte la propagande de guerre de l'OTAN. Aujourd'hui, comme Poutine le disait déjà en 2014, les médias de l'OTAN, c'est l'empire du mensonge. Il y a quatre gros mensonges actuellement. Le premier, c'est que la Russie négligerait la Syrie parce qu'elle est engagée en Ukraine. La deuxième, c'est que l'Iran soutiendrait une nouvelle intervention turque en Syrie. La troisième média mensonge, évidemment, c'est que, bien entendu, il y aurait un désastre humanitaire que Moscou et Damas prépareraient en empêchant le renouvellement de l'aide sous prétexte humanitaire de l'ONU aux fractions terroristes qui sont dans la région d'Idlib. Et enfin, le quatrième mensonge, c'est que la Turquie s'éloignerait de l'OTAN et serait en fait assez proche de l'Iran et de Poutine. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Exactement l'inverse de ces médias mensonges. Tout d'abord, l'axe de la résistance soutenu par la Russie n'a jamais été aussi fort. Et aujourd'hui, comme à la fin de la guerre froide, la parité stratégique est rétablie dans le domaine aérien avec l'axe de la résistance et les Israéliens. La seconde chose, évidemment, c'est que l'Iran, bien loin de soutenir l'agression turque, elle vise en fait à ce que les Turcs quittent la Syrie. C'est cela, ces informations diplomatiques. La troisième chose, c'est que la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN et la principale complice des États-Unis en Méditerranée, au Proche-Orient, mais aussi en Afrique, évidemment, à travers une série de coups de poker géopolitiques, est un cheval de Troie des États-Unis. Les accords d'Astana n'ont jamais été appliqués. Ils servent à maintenir l'occupation américaine dans le nord-est de la Syrie. C'est la même chose qui se passe dans l'Iran d'Afrique actuellement, en Libye, au Mali, au Burkina Faso, etc. Et c'est la même chose qui se passe en Méditerranée, sans oublier l'Ukraine, dans laquelle la Turquie, sous prétexte d'une neutralité qui serait bienveillante pour Moscou, arme les Ukrainiens, leur fournit des moyens et organise le blocus de la flotte russe en Méditerranée. Voilà donc tous ces mensonges qui sont en train de s'écrouler. En fait, la Syrie, dans le front actuel de confrontation entre le bloc américain occidental et le bloc de l'Est, qui comprend trois grands fronts, le front ukrainien, le front syrien et le front malien au cœur de l'Afrique, la Syrie tient absolument sa place dans ce front. Et la reconnaissance des républiques autonomes de Lugansk et de Donetsk par la Syrie, évidemment, est une pierre apportée au renforcement de la politique russe.
Merci pour vos explications. Alors, Madame Midani, lors de sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Amir Abdullahian, le président Assad, M. Bachar Assad, avait annoncé que, en fait, les dommages politiques causés par l'Occident en Ukraine et la crise ukrainienne en général étaient le début d'un nouvel équilibre international en faveur des pays comme l'Iran et la Syrie qui respectaient les droits humains. Comment interprétez-vous ce discours du président Assad?
En fait, effectivement, cette crise en Ukraine, si on peut parler de crise, en fait, c'est une véritable guerre entre à travers laquelle l'OTAN agresse la Russie à travers l'Ukraine, et ce n'est que une phase avancée de ces agressions depuis 90, je dirais, depuis l'effondrement de l'URSS. Donc, en fait, dans la position du président Assad, ça montre effectivement que c'est un vrai changement de la donne mondiale, en fait, qui s'opère aujourd'hui. C'est que les États-Unis, après l'effondrement de l'URSS, ont exercé et monopolisé le pouvoir sur l'ensemble des pays du monde. Ils ont aussi voulu, à tout moment, ils ont voulu imposer leur vision, leur diktat partout, et qu'aujourd'hui, cette confrontation avec la Russie qui a mis en évidence non seulement la force de la Russie, mais elle a mis en évidence aussi le rejet d'un tas de peuples du monde de l'hégémonisme et de l'ingérence dans les affaires des autres pays. Donc en fait, aujourd'hui, non seulement un monde multipolaire son nez, je dirais, mais aussi c'était aussi l'occasion d'un regroupement nouveau des pays qui représentent effectivement sous la pression de leur peuple aussi, qui refusent ce regroupement des pays, qui refusent d'un côté, on a des pays agresseurs qui veulent une continuité de la domination occidentale, donc qui est caractérisé par les États-Unis, les pays de l'OTAN et les pays qui sont sous la férule de l'OTAN, mais aussi en face, il y a donc, on a vu se faire un autre front ou un autre axe de pays comme la Russie, comme l'Iran, comme la Chine, comme l'Inde, qui aussi soutiennent d'abord une bonne application de la Charte des Nations Unies, un respect des peuples et un respect de leur souveraineté et surtout le fait que leur richesse leur appartienne et que d'un autre côté, donc tous ces pays se sont regroupés de différentes manières. Donc, soit en refusant d'appliquer les sanctions contre la Russie, soit aussi en soutenant la Russie dans sa guerre, dans cette guerre, et aussi en refusant le diktat américain. Pour certains, c'est la première fois de notre vie qu'on voit ce rejet du diktat américain pour des pays, par exemple, comme l'Arabie saoudite, les Émirats, etc., qui ont toujours été un petit peu à la botte des Américains. Oui. Là, ils ont refusé de mettre en place les sanctions, ils se sont abstenus dans les votes à l'ONU, etc. Donc, tout ceci montre effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau mondial et il y a un changement très profond qui s'opère et qu'aujourd'hui, les peuples n'acceptent plus ce diktat de tous les côtés et ajouter non seulement diktat, plus sanctions, ce qu'ils appellent sanctions, que ce sont des mesures unilatérales coercitives qui empêchent le libre-échange, qui empêchent l'échange entre les pays de manière respectable et respectueuse de leur souveraineté, mais qui donnent en plus, qui font ce qu'ils appellent sanctions, ça fait valoir cette pression américaine sur les pays et sur leur économie. Or, ce rejet est très, très important, je dirais, par les peuples. Ça verse vraiment dans le sens de la lutte du peuple syrien contre le terrorisme, dans la lutte du peuple de tous les peuples, le peuple vénézuélien, le peuple cubain, le peuple algérien, contre toutes ces mesures coercitives que les Américains s'amusent à distribuer pour affamer le monde et pour garder sa coupe et sa main exploitante, je dirais, et asservissante sur le monde.
Merci pour vos explications. Et vous, Monsieur Michel, avec toutes ces évolutions, à savoir la crise ukrainienne, qui va de plus en plus mal, bien sûr, pour l'ex-US Israël, le renforcement des relations entre l'Iran et la Syrie et bien sûr toutes les explications de Mme Idani vis-à-vis de cette tendance de multipolarisation du monde. Est-ce qu'on pourrait dire que la fin de l'ex-US Israël et de leurs hostilités est proche?
L'opération spéciale en Ukraine, Vladimir Poutine avait deux buts. Il avait un but régional, c'est régler le problème de l'OTAN en mer d'Azov, en mer Noire et dans le Donbass. Mais il avait un but de géopolitique internationale, c'est d'en finir avec l'ordre mondial américain lié à la chute de l'Union soviétique et avec la domination mondiale de l'économie américaine, ce qu'on appelle la globalisation. Dès la première semaine de l'opération spéciale en Ukraine, Poutine a obtenu ses buts, c'est-à-dire qu'il est en train de maintenant de l'emporter militairement dans le Donbass et en Ukraine, mais surtout, il ne reste rien aujourd'hui de la domination américaine sur le monde. Lorsque commence l'opération spéciale, il y a à peu près 3 mois, les États-Unis dominent le monde à travers les 3 OTAN. L'OTAN de l'Europe et de la Méditerranée, l'OTAN du Proche-Orient avec Israël et enfin l'OTAN du Pacifique avec le Japon et l'Australie notamment. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus. Les BRICS sont en train de se ranger derrière la Russie. Les non-alignés réapparaissent, on le voit aujourd'hui. Avec l'invitation du ministre Lavrov au sommet du G20 en Indonésie, c'est les non-alignés du début des années 60 qui étaient les ennemis de l'impérialisme américain qui ressurgissent. Et enfin, évidemment, on assiste à la dédollarisation de l'économie mondiale, à commencer par le marché des hydrocarbures. Donc c'est une victoire pour la Russie. Oui. Et les sanctions occidentales sont une balle que les Occidentaux se sont tirés dans la tête et qui sont en train de tourner à la déroute pour eux.
Merci.
Donc évidemment, Poutine a réussi. Il faut pas oublier l'Afrique, puisque un nombre considérable de chefs d'État africains qui étaient auparavant satellisés par l'Occident ont maintenant une neutralité bienveillante vis-à-vis de la Russie. Et plus de 30 pays africains aux Nations Unies n'ont pas accepté de condamner la Russie. C'est donc une déroute pour l'axe américano-océanique, tout ce qu'on appelle, nous en Europe, le bloc américain occidental.
Merci beaucoup à vous, Luc Michel, géopoliticien, Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales, était avec nous pour ce débat. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Bien chers amis auditeurs, et bienvenue au programme portant sur l'actualité du Moyen-Orient. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Que l'Oumma fasse appel à la résistance. Dans son message à l'occasion du Hajj de l'année 1443 de l'Égire lunaire, le leader de la révolution islamique a souligné: dans l'histoire récente, les ennemis des nations musulmanes ont déployé des efforts massifs pour affaiblir ces deux élixirs vivifiants, c'est-à-dire l'unité et la spiritualité dans nos nations. En promouvant le mode de vie occidental, dépourvu de toute spiritualité et fondé sur une vision matérialiste, ils cherchent à affaiblir la spiritualité et à briser l'unité de l'Oumma, en élargissant et en intensifiant les motifs de division comme la langue, la couleur, la race et la géographie. Or, aujourd'hui, les élites et les peuples, en grand nombre, dans les pays islamiques, sont conscients de leur grande richesse intellectuelle et spirituelle et réalisent son importance et sa valeur. Cette prise de conscience islamique a créé un phénomène merveilleux et miraculeux au cœur du monde de l'islam qui pose de nombreux problèmes aux puissances arrogantes. Ce phénomène est la résistance, dont la vérité se manifeste dans le pouvoir de la foi, du djihad et de la confiance en Dieu. Ce qui se passe en Palestine est une manifestation de ce phénomène étonnant qui a réussi à faire passer le régime sioniste d'un état agressif et braillard à un état de défense et de passivité et à lui imposer les problèmes politiques, sécuritaires et économiques évidents qu'il connaît actuellement. D'autres exemples brillants de la résistance peuvent être clairement vus au Liban, en Irak, au Yémen et dans certains autres endroits. A souligner le leader de la révolution islamique dans son message à l'occasion du Hajj. Démonstration de force de la marine de l'armée iranienne en mer Caspienne. Les forces navales iraniennes ont commencé le vendredi 8 juillet leur exercice annuel portant le nom de code sécurité durable en mer Caspienne. Le commandant adjoint de la marine de l'armée iranienne, Hamzeh Ali Kavieni, a déclaré « L'exercice maritime de sécurité durable 1401-2022 a commencé avec la participation de diverses unités de surface et aéroportées de la marine de l'armée, y compris des destroyers, des hélicoptères et des drones basés en mer et des systèmes de guerre électronique, ainsi que des unités de marine et de commando. Cet exercice naval se tiendra pendant 2 jours, à partir du vendredi 8 juillet, dans l'eau, sur terre et en air, afin d'inspecter et d'évaluer les performances des systèmes et l'état de préparation du personnel, et de transférer les expériences aux nouvelles générations dans la zone de la mer Caspienne. Il a considéré la mer Caspienne comme une mer de paix et d'amitié pour les pays voisins et a ajouté « Nous ne permettons à personne de saper la paix et la sécurité dans cette mer. » La manœuvre militaire fait suite à la visite du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran à Erevan, capitale d'Arménie. Le contre-amiral Ali Shamkhani, qui s'est rendu en Arménie pour une visite officielle de journée, a rencontré le jeudi 7 juillet Armen Grigorian, son homologue arménien avec qui il a discuté des questions d'intérêt commun. Faisant allusion aux liens historiques, culturels et civilisationnels profonds et anciens entre les deux nations, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran a déclaré « Cette situation a fourni une plateforme appropriée pour renforcer et élargir les relations globales entre les deux pays. Il a souligné que le volume des échanges économiques entre l'Iran et l'Arménie n'était pas proportionnel aux capacités qui pouvaient être échangées réciproquement, sans manquer d'insister sur la nécessité d'activer ces capacités. M. Shamkhani a également précisé que l'Iran était prêt à contribuer à l'établissement d'une paix durable dans le Caucase du Sud. Irak, le sale coup de Sa Majesté. Le false flag british en plein aéroport de Bagdad, alors que la bataille pour priver la Grande-Bretagne de son emprise sur l'aéroport de Bagdad bat son plein, une curieuse attaque vient d'avoir lieu le vendredi matin 8 juillet dans cet aéroport. Des sources irakiennes ont fait état d'une fusillade à l'aéroport de Bagdad coûtant la vie à une personne. Selon des sources d'information irakiennes, la fusillade est survenue à l'entrée numéro 14 de l'aéroport. La chaîne Telegram, Sabre News, a également rapporté que la personne tuée n'était toujours pas identifiée, mais que la région est actuellement sous le contrôle de la société anglaise G4S. Les médias ont rapporté le 24 mai une attaque contre une base près de l'aéroport international de Bagdad. Lors de cette attaque, la base aérienne de Mohammed Ala, non loin de l'aéroport international de Bagdad, a été prise pour cible par une attaque de drones. À noter que la base Mohamed Ala a été frappée à plusieurs reprises par des roquettes. Le curieux incident de fusillade à l'aéroport de Bagdad intervient alors même que la société britannique qui contrôle l'aéroport est directement impliquée dans l'assassinat le 3 janvier 2020 des commandants de la résistance, le général de corps d'armée Rassem Soleimani et le numéro 2 d'Hesh el-Shaabi, Abu Mahdi al-Mohandis. Des tentatives de prolonger le contrat de Bagdad avec la société anglaise accusée d'avoir coopéré avec Washington dans l'assassinat des commandants de l'axe de la résistance à l'aéroport de Bagdad a débouché sur de vives réactions de la part des personnalités politiques irakiennes qui ont qualifié d'illégale la prolongation de ce contrat. L'espace aérien irakien est sous le contrôle de cette compagnie depuis 2011, date à laquelle elle a signé un contrat de 15 ans avec l'Irak. Syrie, le nid kurde aux États-Unis. Les Kurdes syriens ont refusé de quitter Tal Rifat, quitte à être attaqués par Ankara. Sur fond des menaces croissantes de la Turquie d'attaquer le nord de la Syrie, les États-Unis ont envoyé une délégation censée servir de médiateur entre les Kurdes et la Turquie. Mais les Kurdes semblent l'avoir renvoyé. Des sources syriennes ont rapporté qu'une délégation dirigée par le sénateur républicain américain Lindsey Graham et John Brennan, commandant de la coalition internationale soi-disant anti-Daesh, s'est rendu le 6 juillet dans le nord-est de la Syrie pour assurer la médiation entre la Turquie et les Kurdes syriens. La délégation américaine s'est évertuée à convaincre les responsables des FTS, Forces démocratiques syriennes, que la Turquie a insisté à lancer son opération dans le nord de la Syrie et l'a demandé aux Kurdes de quitter Tal Rifat. Ce qui a provoqué l'indignation des FTS, qui n'ont pas accepté l'offre américaine et ont déclaré l'état d'urgence dans les zones sous leur contrôle dans le nord-est de la Syrie. Notons que le président turc Recep Tayyip Erdogan a récemment annoncé lors d'une réunion avec des membres du Parti de la Justice et du Développement que les forces turques élimineraient les terroristes à Manbij et à Tal Rifat dans le nord de la Syrie, affirmant que les opérations turques se poursuivraient progressivement dans d'autres régions de la Syrie. Le président turc a aussi affirmé qu'Ankara poursuivrait ses efforts pour établir ce qu'il a appelé une zone de sécurité de 30 km de profondeur le long de la frontière sud avec la Syrie. Les déclarations d'Erdogan se sont heurtées à une vive réaction de Damas. Le ministre syrien des Affaires étrangères ayant déclaré « Les déclarations ridicules du président du régime turc sur la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie sont un jeu hostile que ce régime lance contre la Syrie et son intégrité territoriale. Le marchandage vicieux que le régime turc a fait et continue de faire indique qu'il n'a pas la moindre compréhension politique et morale pour interagir dans la crise syrienne parce que ce régime lui-même a toujours été et est une partie de cette crise. » Et il utilise le plan pour semer la discorde et diviser la Syrie, un plan qui n'est conforme qu'aux objectifs d'Israël, des États-Unis et de l'Occident, a ponctué le ministre syrien des Affaires étrangères. Tulkarem Naplouse Jenin, l'armée sioniste ciblée de toutes parts. Quatre opérations commando simultanées. Depuis les 2 mois chocs qui ont secoué l'entité en avril et en mai, marqués par des dizaines d'attaques, jamais la Cisjordanie n'a été le théâtre des opérations commando croisées. Décidément, Jenin, ce méga QG de la bataille pour la libération de Rots, s'est étendu non seulement à Naplouse, mais aussi à Tulkarem. La résistance palestinienne a mené de jeudi à vendredi 8 juillet 4 opérations commando contre les forces d'occupation et les centres militaires sionistes à Naplouse et à Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Première opération, un motard de la résistance a ouvert le feu sur un poste militaire des forces d'occupation dans le quartier Amta de Tulkarem, avant de s'échapper en toute sécurité. Deuxième opération, les combattants de la résistance palestinienne ont tiré sur une tour de guet de l'armée israélienne près de Beit Lid, à l'est de Tulkarem, et ont réussi à prendre la fuite. Troisième opération, les combattants palestiniens ont tiré sur une base militaire israélienne près de la colonie sioniste d'Itzar, construite sur les terres palestiniennes au sud de Naplouse. Malgré le déploiement massif des forces d'occupation israéliennes et des mesures de sécurité strictes, les combattants de la résistance palestinienne ont quitté sains et saufs du lieu de l'incident. Et la quatrième opération, les combattants de la résistance palestinienne, à bord d'un véhicule, ont tiré sur un point militaire de l'armée israélienne à la périphérie du village Tal, au sud-ouest de Naplouse. Suite à l'opération, les forces d'occupation ont patrouillé pour poursuivre et arrêter les auteurs de l'opération ont bloqué les voies de communication entre le village de Tal et la ville de Naplouse. Les opérations commandant anti-Israël ont considérablement augmenté parallèlement aux menaces de la résistance palestinienne de cibler l'armée israélienne en raison de son raid sur les deux villes de Jenin et de Naplouse et du déploiement des soldats sionistes dans des bases militaires à proximité. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.